Enfin, un soir, vers la fin du printemps, Madame Grandet, dévorée par le chagrin encore plus que par la maladie, n'ayant pas réussi, malgré ses prières, à réconcilier Eugénie et son père, confia ses peines secrètes au Cruchot. « Mettre une fille de 23 ans au pain et à l'eau ? » s'écria le président de Bonfons. « Et sans motif ? Mais cela constitue des sévices tortionnaires. Elle peut protester contre, et tant d'ans que sur... »« Allons, mon neveu, dit le notaire, laissez votre baragouin de palais. » « Soyez tranquille, madame. Je ferai finir cette réclusion dès demain. » En entendant parler d'elle, Eugénie sortit de sa chambre. « Messieurs, dit-elle en s'avançant par un mouvement plein de fierté, je vous prie de ne pas vous occuper de cette affaire. Mon père est maître chez lui. Tant que j'habiterai sa maison, je dois lui obéir. Sa conduite ne saurait être soumise à l'approbation ni à la désapprobation du monde. » Il n'en est comptable qu'à Dieu. Je réclame de votre amitié le plus profond silence à cet égard. Blâmer mon père serait attaquer notre propre considération. Je vous sais gré, messieurs, de l'intérêt que vous me témoignez. Mais vous m'obligeriez davantage si vous vouliez faire cesser les bruits offensants qui courent par la ville et desquels j'ai été instruite par hasard. Elle a raison, dit Madame Grandet. Mademoiselle, « la meilleure manière d'empêcher le monde de jaser est de vous faire rendre la liberté, » lui répondit respectueusement le vieux notaire, frappé de la beauté que la retraite, la mélancolie et l'amour avaient imprimée à Eugénie. « Eh bien, ma fille, laisse à Monsieur Cruchot le soin d'arranger cette affaire, puisqu'il répond du succès. Il connaît ton père et sait comment il faut le prendre. » Si tu veux me voir heureuse pendant le peu de temps qui me reste à vivre, il faut à tout prix que ton père et toi vous soyez réconciliés. » Le lendemain, suivant une habitude prise par Grandet depuis la réclusion de Génie, il vint faire un certain nombre de tours dans son petit jardin. Il avait pris pour cette promenade le moment où Eugénie se peignait. Quand le bonhomme arrivait au gros noyer, il se cachait derrière le tronc de l'arbre, restait pendant quelques instants à contempler les longs cheveux de sa fille et flottait sans doute entre les pensées que lui suggérait la ténacité de son caractère et le désir d'embrasser son enfant. Souvent, il demeurait assis sur le petit banc de bois pourri où Charles et Eugénie s'étaient jurés un éternel amour, pendant qu'elle regardait aussi son père à la dérobée ou dans son miroir. S'il se levait et recommençait sa promenade, elle s'asseyait complaisamment à la fenêtre et se mettait à examiner le pan de mur où pendaient les plus jolies fleurs, d'où sortaient, d'entre les crevasses, des cheveux de Vénus, des liserons et une plante grasse, jaune ou blanche, un sédum très abondant dans les vignes à Saumur et à Tours. Maître Cruchot vint de bonne heure et trouva le vieux vigneron assis par un beau jour de juin sur le petit banc, le dos appuyé au mur mitoyen, occupé à voir sa fille. « Qu'y a-t-il pour votre service, maître Cruchot ? » dit-il en apercevant le notaire. « Je viens vous parler d'affaires. »« Ah ah ! Avez-vous un peu d'or à me donner, contre des écus ?»« Non, non, il ne s'agit pas d'argent, mais de votre fille Eugénie. Tout le monde parle d'elle et de vous. »« De quoi se mêle-t-on ? Charbonnier est maître chez lui. » « D'accord, le charbonnier est maître de se tuer aussi, ou, ce qui est pis, de jeter son argent par les fenêtres. »« Comment cela ?»« Eh, mais votre femme est très malade, mon ami. Vous devriez même consulter Monsieur Bergerin. Elle est en danger de mort. Si elle venait à mourir sans avoir été soignée comme il faut, vous ne seriez pas tranquille, je le crois. »« Ta 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 ta, vous savez ce qu'a ma femme ?» Ces médecins, une fois qu'ils ont mis le pied chez vous, ils viennent des 5 à 6 fois par jour. Enfin, Grandet, vous ferez comme vous l'entendrez. Nous sommes de vieux amis. Il n'y a pas dans tout Saumur un homme qui prenne plus que moi d'intérêt à ce qui vous concerne. J'ai donc dû vous dire cela. Maintenant, arrive qui plante, vous êtes majeur, vous savez vous conduire. Allez. Ceci n'est d'ailleurs pas l'affaire qui m'amène. Il s'agit de quelque chose de plus grave pour vous, peut-être. Après tout, vous n'avez pas envie de tuer votre femme. Elle vous est trop utile. Songez donc à la situation où vous seriez vis-à-vis de votre fille si Madame Grandet mourait. Vous devriez des comptes à Eugénie, puisque vous êtes commun en bien avec votre femme. Votre fille sera en droit de réclamer le partage de votre fortune, de faire vendre Froidfond. Enfin, elle succède à sa mère, de qui vous ne pouvez pas hériter. » Ces paroles furent un coup de foudre pour le bonhomme, qui n'était pas aussi fort en législation qu'il pouvait l'être en commerce. Il n'avait jamais pensé à une licitation. « Ainsi, je vous engage à la traiter avec douceur, » dit Cruchot en terminant.
« Mais savez-vous ce qu'elle a fait, Cruchot ?»«
Quoi ?» dit le notaire, curieux de recevoir une confidence du père Grandet et de connaître la cause de la querelle.
« Elle a donné son or !»«
Eh bien, était-il à elle ?» demanda le notaire.
« Ils me disent tout cela !» dit le bonhomme en laissant tomber ses bras par un mouvement tragique.
« Allez-vous pour une misère, reprit Cruchot, mettre des entraves aux concessions que vous lui demanderez de vous faire à la mort de sa mère ?»«
Ah, vous appelez 6 000 francs d'or une misère ?»«
Eh, mon vieil ami, savez-vous ce que coûtera l'inventaire et le partage de la succession de votre femme si Eugénie l'exige ?»«
Quoi ?»
2 ou 3, 400 000 francs peut-être. Ne faudra-t-il pas liciter et vendre pour connaître la véritable valeur?
Au lieu qu'en vous entendant...
Par la serpette de mon père! S'écria le vigneron qui s'assit en pâlissant. Nous verrons ça, Cruchot.
Après un moment de silence ou d'agonie, le bonhomme regarda le notaire en lui disant.
La vie est bien dure. Il s'y trouve bien des douleurs.
Cruchot, reprit-il solennellement, vous ne voulez pas me tromper. Jurez-moi sur l'honneur que ce que vous me chantez là est fondé en droit. Montrez-moi le code. Je veux voir le code.
Mon pauvre ami, répondit le notaire, ne sais-je pas mon métier?
Cela est donc bien vrai. Je serai dépouillé, trahi, tué, dévoré par ma fille.
Elle hérite de sa mère.
À quoi servent donc les enfants?
Ah, ma femme, je l'aime. Elle est solide, heureusement. C'est une Labertelière.
Elle n'a pas un mois à vivre.
Le tonnelier se frappa le front, marcha, revint et, jetant un regard effrayant à Cruchot,
« Comment faire ? » lui dit-il.
Eugénie pourra renoncer purement et simplement à la succession de sa mère. Vous ne voulez pas la déshériter, n'est-ce pas?
Mais pour obtenir un partage de ce genre, ne la rudoyez pas. Ce que je vous dis là, mon vieux, est contre mon intérêt. Qu'ai-je à faire, moi? Des liquidations, des inventaires, des ventes, des partages?
Nous verrons, nous verrons. Ne parlons plus de cela, Cruchot. Vous me tribouillez les entrailles. Avez-vous reçu de l'or?
Non.
Mais j'ai quelques vieux louis, 10 000. Je vous les donnerai.
Mon bon ami, faites la paix avec Eugénie. Voyez-vous, tout Saumur vous jette la pierre.
Les drôles!
Allons, les rentes sont à 99. Soyez donc content une fois dans la vie.
À 99, Cruchot?
Oui.
Hé hé, 99, dit le bonhomme en reconduisant le vieux notaire jusqu'à la porte de la rue.
Puis, trop agité par ce qu'il venait d'entendre pour rester au logis, il monta chez sa femme et lui dit
« Allons, la mère, tu peux passer la journée avec ta fille. Je vais à Froidfond. Soyez gentilles toutes les deux. C'est le jour de notre mariage, ma bonne femme. Tiens, voilà 10 écus pour ton reposoir de la fête Dieu. Il y a assez longtemps que tu veux en faire un. Régale-toi. Amusez-vous, soyez joyeuse. Portez-vous bien. Vive la joie !»
Il jeta 10 écus de 6 francs sur le lit de sa femme et lui prit la tête pour la baiser au front.
« Bonne femme, tu vas mieux, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous penser à recevoir dans votre maison le Dieu qui pardonne en tenant votre fille exilée de votre cœur ? » dit-elle avec émotion.
« Ta 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 !
dit le père d'une voix caressante. « Nous verrons cela. »
« Bonté du ciel, Eugénie !» cria la mère en rougissant de joie. « Viens embrasser ton père, il te pardonne !»
Mais le bonhomme avait disparu. Il se sauvait à toutes jambes vers ses closeries en tâchant de mettre en ordre ses idées renversées. Grandet commençait alors sa 76e année. Depuis 2 ans principalement, son avarice s'était accrue, comme s'accroissent toutes les passions persistantes de l'homme. Suivant une observation faite sur les avares, sur les ambitieux, sur tous les gens dont la vie a été consacrée à une idée dominante, son sentiment avait affectionné plus particulièrement un symbole de sa passion, la vue de l'or. La possession de l'or était devenue sa monomanie. Son esprit de despotisme avait grandi en proportion de son avarice. Et abandonner la direction de la moindre partie de ses biens à la mort de sa femme lui paraissait une chose contre nature. Déclarer sa fortune à sa fille, inventorier l'universalité de ses biens, meubles et immeubles, pour les liciter, ce serait à se couper la gorge, dit-il tout haut au milieu d'un clos en examinant les ceps. Enfin, il prit son parti, revint à Saumur à l'heure du dîner, résolu de plier devant Eugénie, de la cajoler, de l'amadouer, afin de pouvoir mourir royalement, en tenant jusqu'au dernier soupir les rênes de ses millions. Au moment où le bonhomme, qui par hasard avait pris son passe-partout, montait l'escalier à pas de loup pour venir chez sa femme, Eugénie avait apporté sur le lit de sa mère le beau nécessaire. Toutes deux, en l'absence de Grandet, se donnaient le plaisir de voir le portrait de Charles, en examinant celui de sa mère. C'est tout à fait son front et sa bouche, disait Eugénie au moment où le vigneron ouvrit la porte. Au regard que jeta son mari sur l'or, Madame Grandet cria « Mon Dieu, ayez pitié de nous !» Le bonhomme sauta sur le nécessaire comme un tigre fond sur un enfant endormi. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » dit-il en emportant le trésor et allant le placer à la fenêtre. « Du bon or, de l'or !» s'écria-t-il. « Beaucoup d'or, ça pèse 2 livres !»« Ah ! Charles t'a donné cela contre tes belles pièces, hein ? Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? C'est une bonne affaire, fifille ! Tu es ma fille, je te reconnais !» Eugénie tremblait de tous ses membres. « N'est-ce pas ? Ceci est à Charles !» reprit le bonhomme. « Oui, mon père, ce n'est pas à moi. Ce meuble est un dépôt sacré. » « Ta-ta-ta, il a pris ta fortune, faut te rétablir ton petit trésor. »« Mon père !» Le bonhomme voulut prendre son couteau pour faire sauter une plaque d'or et fut obligé de poser le nécessaire sur une chaise. Eugénie s'élança pour le ressaisir, mais le tonnelier, qui avait tout à la fois l'œil à sa fille et au coffret, la repoussa si violemment en étendant le bras qu'elle alla tomber sur le lit de sa mère. « Monsieur, monsieur !» cria la mère en se dressant sur son lit. Grandet avait tiré son couteau et s'apprêtait à soulever l'or. « Mon père !» cria Eugénie en se jetant à genoux et marchant ainsi pour arriver plus près du bonhomme et lever les mains vers lui. « Mon père, au nom de tous les saints et de la Vierge, au nom du Christ qui est mort sur la croix, au nom de votre salut éternel, mon père, au nom de ma vie, ne touchez pas à ceci. Cette toilette n'est ni à vous ni à moi. » Elle est un malheureux parent qui me l'a confiée et je dois la lui rendre intacte. Pourquoi la regardais-tu si c'est un dépôt ? Voir, c'est pique touché. Mon père, ne la détruisez pas ou vous me déshonorez. Mon père, entendez-vous ? Monsieur, grâce ! Dit la mère. Mon père ! Cria Eugénie d'une voix si éclatante que Nanon effrayée monta. Eugénie sauta sur un couteau qui était à sa portée et s'en arma. « Eh bien ?» lui dit froidement Grandet en souriant à froid. « Monsieur, monsieur, vous m'assassinez !» dit la mère. « Mon père, si votre couteau entame seulement une parcelle de cet or, je me perce de celui-ci. Vous avez déjà rendu ma mère mortellement malade. Vous tuerez encore votre fille. Allez maintenant, blessure pour blessure !» Grandet tint son couteau sur le nécessaire et regarda sa fille en hésitant. « En serais-tu donc capable, Eugénie ? » dit-il. « Oui, monsieur, dit la mère.
Elle le ferait comme elle le dit, cria Nanon. Soyez donc raisonnable, monsieur, une fois dans votre vie.
Le tonnelier regarda Laure et sa fille alternativement pendant un instant. Madame Grandet s'évanouit.
Là, voyez-vous, mon cher monsieur, madame se meurt, cria Nanon.
Tiens, ma fille, ne nous brouillons pas pour un coffre. Prends donc, s'écria vivement le tonnelier en jetant la toilette sur le lit.
Toi, Nanon, va chercher monsieur Bergerin.
Allons, la mère, dit-il en baisant la main de sa femme. Ce n'est rien, va. Nous avons fait la paix. Pas vrai, Fifi?
Plus de pain sec. Tu mangeras tout ce que tu voudras.
Ah, elle ouvre les yeux. Eh bien, la mère, mes mères, timères, allons donc.
Tiens, vois, j'embrasse Eugénie.
Elle aime son cousin. Elle l'épousera si elle veut. Elle lui gardera le petit coffre.
Mais vis longtemps, ma pauvre femme. Allons, remue donc.
Écoute, tu auras le plus beau reposoir qui se soit jamais fait à Saumur.
Mon Dieu, pouvez-vous traiter ainsi votre femme et votre enfant ? Dit d'une voix faible madame Grandet.
Je ne le ferai plus, plus ! Cria le tonnelier. Tu vas voir, ma pauvre femme.
Il alla à son cabinet et revint avec une poignée de louis qu'il éparpilla sur le lit.
Tiens, Eugénie, tiens, ma femme, voilà pour vous. Dit-il en maniant les louis. Allons, égaie-toi, ma femme. Porte-toi bien. Tu ne manqueras de rien, ni Eugénie non plus. Voilà 100 louis d'or pour elle. Tu ne les donneras pas, Eugénie, cela, hein ?
Madame Grandet et sa fille se regardèrent étonnées.
Reprenez-les, mon père, nous n'avons besoin que de votre tendresse.
Eh bien, c'est ça, dit-il en empochant les louis. Vivons comme de bons amis. Descendons tous dans la salle pour dîner, pour jouer au loto tous les soirs à 2 sous. Faites vos farces, hein, ma femme ?
Hélas, je le voudrais bien, puisque cela peut vous être agréable, dit la mourante. Mais je ne saurais me lever.
Pauvre mère, dit le tonnelier, tu ne sais pas combien je t'aime. Et toi, ma fille ?
Il la serra, l'embrassa.
Oh, comme c'est bon d'embrasser sa fille après une brouille. Ma fifi, tiens, vois-tu, mes mères, nous ne faisons qu'un maintenant.
Va donc serrer cela, dit-il à Eugénie en lui montrant le coffret.
Va, ne crains rien, je ne t'en parlerai plus. Jamais.
Monsieur Bergerin, le plus célèbre médecin de Saumur, arriva bientôt. La consultation finie, il déclara positivement à Grandet que sa femme était bien mal. Mais qu'un grand calme d'esprit, un régime doux et des soins minutieux pourraient reculer l'époque de sa mort vers la fin de l'automne.
« Ça coûtera-t-il cher ? » dit le bonhomme. « Faut-il des drogues ?»«
Peu de drogues, mais beaucoup de soins, » répondit le médecin qui ne put retenir un sourire.
« Enfin, monsieur Bergerin, » répondit Grandet, « vous êtes un homme d'honneur, pas vrai ? Je me fie à vous. » Venez voir ma femme toutes et quand fois vous le jugerez convenable. Conservez-moi ma bonne femme. Je l'aime beaucoup, voyez-vous, sans que ça paraisse, parce que chez moi tout se passe en dedans et me trifouille l'âme. J'ai du chagrin. Le chagrin est entré chez moi avec la mort de mon frère, pour lequel je dépense à Paris des sommes. Les yeux de la tête, enfin, et ça ne finit point. Adieu, monsieur. Si l'on peut sauver ma femme, sauvez-la. « Quand même, il faudrait dépenser pour ça 100 ou 200 francs. »
Malgré les souhaits fervents que Grandet faisait pour la santé de sa femme, dont la succession ouverte était une première mort pour lui, malgré la complaisance qu'il manifestait en toute occasion pour les moindres volontés de la mère et de la fille étonnée, malgré les soins les plus tendres prodigués par Eugénie, madame Grandet marcha rapidement vers la mort. Chaque jour, elle s'affaiblissait et dépérissait, comme dépérissent la plupart des femmes atteintes à cet âge par la maladie. Elle était frêle autant que les feuilles des arbres en automne. Les rayons du ciel la faisaient resplendir comme ces feuilles que le soleil traverse et dort. Ce fut une mort digne de sa vie, une mort toute chrétienne, n'est-ce pas dire sublime ? Au mois d'octobre 1822, éclatèrent particulièrement ses vertus, sa patience d'ange et son amour pour sa fille. Elle s'éteignit sans avoir laissé échapper la moindre plainte. Agneau sans tache, elle allait au ciel et ne regrettait ici-bas que la douce compagne de sa froide vie, à laquelle ses derniers regards semblaient prédire mille maux. Elle tremblait de laisser cette brebis, blanche comme elle, seule au milieu d'un monde égoïste qui voulait lui arracher sa toison, ses trésors. « Mon enfant, lui dit-elle avant d'expirer, il n'y a de bonheur que dans le ciel, tu le sauras un jour. » Le lendemain de cette mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'attacher à cette maison où elle était née, où elle avait tant souffert, où sa mère venait de mourir. Elle ne pouvait contempler la croisée et la chaise à patins dans la salle sans verser des pleurs. Elle crut avoir méconnu l'âme de son vieux père en se voyant l'objet de ses soins les plus tendres. Il venait lui donner le bras pour descendre au déjeuner. Il la regardait d'un œil presque bon pendant des heures entières. Enfin, il la couvait comme si elle eût été d'or. Le vieux tonnelier se ressemblait si peu à lui-même, il tremblait tellement devant sa fille que Nanon et les Cruchotins, témoins de sa faiblesse, l'attribuèrent à son grand âge et craignirent ainsi quelque affaiblissement dans ses facultés. Mais le jour où la famille prit le deuil, après le dîner auquel fut convié maître Cruchot, qui seul connaissait le secret de son client, la conduite du bonhomme s'expliqua. « Ma chère enfant, dit-il à Eugénie lorsque la table fut ôtée et les portes soigneusement closes. Te voilà héritière de ta mère, et nous avons de petites affaires à régler entre nous deux. Pas vrai, Cruchot ?
Oui.
Est-il donc si nécessaire de s'en occuper aujourd'hui, mon père ?
Oui, oui, fifille. Je ne pourrai pas durer dans l'incertitude où je suis. Je ne crois pas que tu veuilles me faire de la peine.
Oh, mon père !
Eh bien, il faut arranger tout cela ce soir.
Que voulez-vous donc que je fasse ?
Mais, Fifi, ça ne me regarde pas. Dites-lui donc, Cruchot.
Mademoiselle, monsieur votre père ne voudrait ni partager, ni vendre ses biens, ni payer des droits énormes pour l'argent comptant qu'il peut posséder. Donc, pour cela, il faudrait se dispenser de faire l'inventaire de toute la fortune qui aujourd'hui se trouve indivise entre vous et monsieur votre père. Cruchot, êtes-vous bien sûr de cela pour en parler ainsi devant un enfant ?
Laissez-moi dire, Grandet.
Oui, oui, mon ami, ni vous ni ma fille ne voulez me dépouiller, n'est-ce pas, fifille ?
Mais, monsieur Cruchot, que faut-il que je fasse ? Demanda Eugénie impatientée.
Eh bien, dit le notaire, il faudrait signer cet acte par lequel vous renonceriez à la succession de madame votre mère et laisseriez à votre père l'usufruit de tous les biens indivis entre vous et dont il vous assure la nue propriété.
Je ne comprends rien à tout ce que vous me dites, répondit Eugénie. Donnez-moi l'acte et montrez-moi la place où je dois signer.
Le père Grandet regardait alternativement l'acte et sa fille et l'acte, en éprouvant de si violentes émotions qu'il s'essuya quelques gouttes de sueur venues sur son front.
Fifille, dit-il, au lieu de signer cet acte qui coûtera gros à faire enregistrer, si tu voulais renoncer purement et simplement à la succession de ta pauvre chère mère défunte et t'en rapporter à moi pour l'avenir, j'aimerais mieux ça. Je te ferai alors tous les mois une bonne grosse rente de 100 francs. Vois, tu pourrais payer autant de messes que tu voudrais à ceux pour lesquels tu en fais dire. Hein ? 100 francs par mois, en livres.
Je ferai tout ce qu'il vous plaira, mon père.
« Mademoiselle, dit le notaire, il est de mon devoir de vous faire observer que vous vous dépouillez. »«
Eh, mon Dieu, dit-elle, qu'est-ce que cela me fait ? » ?»«
Tais-toi, Cruchot, c'est dit !» s'écria Grandet en prenant la main de sa fille et y frappant avec la sienne.
Eugénie, tu ne te dédiras point. Tu es une honnête fille, hein ?
Oh, mon père ! Il l'embrassa avec effusion, la serra dans ses bras à l'étouffer.
Ah, mon enfant, tu donnes la vie à ton père, mais tu lui rends ce qu'il t'a donné. Nous sommes quittes. Voilà comment doivent se faire les affaires. La vie est une affaire. Je te bénis. Tu es une vertueuse fille qui aime bien son papa. Fais ce que tu voudras maintenant.
À demain donc, Cruchot, dit-il en regardant le notaire épouvanté. Vous verrez à bien préparer l'acte de renonciation au greffe du tribunal.
Le lendemain, vers midi, fut signée la déclaration par laquelle Eugénie accomplissait elle-même sa spoliation. Cependant, malgré sa parole, à la fin de la première année, le vieux tonnelier n'avait pas encore donné un sou des 100 francs par mois si solennellement promis à sa fille. Aussi, quand Eugénie lui en parla plaisamment, ne put-il s'empêcher de rougir. Il monta vivement à son cabinet, revint et lui présenta environ le tiers des bijoux qu'il avait pris à son neveu.
« Tiens, petite, dit-il d'un accent plein d'ironie, veux-tu ça pour tes 1200 francs ?»«
Oh, mon père, vrai, me les donnez-vous ?»«
Je t'en rendrai autant l'année prochaine, dit-il en les lui jetant dans son tablier.
Ainsi, en peu de temps, tu auras toutes ces breloques, ajouta-t-il en se frottant les mains, heureux de pouvoir spéculer sur le sentiment de sa fille.
Néanmoins, le vieillard, quoique robuste encore, sentit la nécessité d'initier sa fille au secret du ménage. Pendant 2 années consécutives, il lui fit ordonner en sa présence le menu de la maison et recevoir les redevances. Il lui apprit lentement et successivement les noms, la contenance de ses clos, de ses fermes. Vers la 3e année, il l'avait si bien accoutumé à toutes ses façons d'avarice, il les avait si véritablement tournées chez elle en habitude, qu'il lui laissa sans crainte les clés de la dépense et l'institua la maîtresse au logis. 5 ans se passèrent sans qu'aucun événement marquât dans l'existence monotone d'Eugénie et de son père. Ce furent les mêmes actes, constamment accompli avec la régularité chronométrique des mouvements de la vieille pendule. La profonde mélancolie de Mademoiselle Grandet n'était un secret pour personne. Mais si chacun put en pressentir la cause, jamais un mot prononcé par elle ne justifia les soupçons que toutes les sociétés de Saumur formaient sur l'état du cœur de la riche héritière. Sa seule compagnie se composait des 3 Cruchot et de quelques-uns de leurs amis qu'ils avaient insensiblement introduits au logis. Ils lui avaient appris à jouer au whist et venaient tous les soirs faire la partie. Dans l'année 1827, son père, sentant le poids des infirmités, fut forcé de l'initier au secret de sa fortune territoriale et lui disait, en cas de difficulté, de s'en rapporter à Cruchot le notaire, dont la probité lui était connue. Puis, vers la fin de cette année, le bonhomme fut enfin, à l'âge de 82 ans, pris par une paralysie qui fit de rapides progrès. Grandet fut condamné par M. Bergerin. En pensant qu'elle allait bientôt se trouver seule dans le monde, Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus près de son père et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée, comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier. Et Charles n'était pas là. Elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Aussi, la mort de cet homme ne contrasta-t-elle point avec sa vie. Dès le matin, il se faisait rouler entre la cheminée de sa chambre et la porte de son cabinet, sans doute plein d'or. Il restait là, sans mouvement, mais il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir et la porte doublée de fer. Il se faisait rendre compte des moindres bruits qu'il entendait. Et, au grand étonnement du notaire, il entendait le bâillement de son chien dans la cour. Il se réveillait de sa stupeur apparente au jour et à l'heure où il fallait recevoir des fermages, faire des comptes avec les closiers ou donner des quittances. Il agitait alors son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il se trouvât en face de la porte de son cabinet. Il le faisait ouvrir par sa fille et veillait à ce qu'elle plaçât en secret elle-même les sacs d'argent les uns sur les autres, à ce qu'elle fermât la porte. Puis il revenait à sa place silencieusement, aussitôt qu'elle lui avait rendu la précieuse clé, toujours placée dans la poche de son gilet, et qu'il tâtait de temps en temps. D'ailleurs, son vieil ami le notaire, sentant que la riche héritière épouserait nécessairement son neveu, le président, si Charles Grandet ne revenait pas, redoubla de soins et d'attention. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de Grandet, allait à son commandement à Froidfond, aux terres, aux prés, aux vignes, vendait les récoltes et transmutait tout en or et en argent qui venait se réunir secrètement aux sacs empilés dans le cabinet. Enfin arrivèrent les jours d'agonie, pendant lesquels la forte charpente du bonhomme fut aux prises avec la destruction. Il voulut rester assis au coin de son feu devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon « Serre, serre ça, pour qu'on ne me vole pas !» Quand il pouvait ouvrir les yeux, où toute sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où gisaient ses trésors, en disant à sa fille « Y sont-ils ? Y sont-ils ?» d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. « Oui, mon père. Veille alors. Mets de l'or devant moi. » Eugénie lui étendait des louis sur une table et il demeurait des heures entières les yeux attachés sur les louis, comme un enfant qui, au moment où il commence à voir, contemple stupidement le même objet. Et, comme à un enfant, il lui échappait un sourire pénible. « Ça me réchauffe, » disait-il quelquefois, en laissant paraître sur sa figure une expression de béatitude. Lorsque le curé de la paroisse vint l'administrer, ses yeux, morts en apparence depuis quelques heures, se ranimèrent à la vue de la croix, des chandeliers, du bénitier d'argent qu'il regarda fixement, et sa loupe remua pour la dernière fois. Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire baiser le Christ, il fit un épouvantable geste pour le saisir, et ce dernier effort lui coûta la vie. Il appela Eugénie, qu'il ne voyait pas, quoiqu'elle fût agenouillée devant lui, et qu'elle baigna de ses larmes une main déjà froide. « Mon père, bénissez-moi » demanda-t-elle. « Aie bien soin de tout. Tu me rendras compte de ça là-bas » dit-il en prouvant par cette dernière parole que le christianisme doit être la religion des avares. Eugénie Grandet se trouva donc seule au monde dans cette maison, n'ayant que Nanon, à qui elle put jeter un regard avec la certitude d'être entendue et comprise. Nanon, le seul être qu'il aima pour elle et avec qui elle put causer de ses chagrins. La grande Nanon était une providence pour Eugénie. Aussi ne fut-elle plus une servante, mais une humble amie. Après la mort de son père, Eugénie apprit par maître Cruchot qu'elle possédait 300 000 livres de rente en bien-fonds dans l'arrondissement de Saumur. 6 millions placés en 3% à 60 francs, et il valait alors 77 francs. Plus 2 millions en or et 100 000 francs en écus, sans compter les arrérages à recevoir. L'estimation totale de ses biens allait à 17 millions. « Où donc est mon cousin ?» se dit-elle. Le jour où maître Cruchot remit à sa cliente l'état de la succession, devenu clair et limpide, Eugénie resta seule avec Nanon, assise l'une et l'autre de chaque côté de la cheminée de cette salle si vide où tout était souvenir, depuis la chaise à patins sur laquelle s'asseyait sa mère jusqu'au verre dans lequel avait bu son cousin. « Nanon, nous sommes seuls. »« Oui, mademoiselle,
Et si je savais où il est, ce mignon, j'irais de mon pied le chercher.
Il y a la mer entre nous, dit-elle.
Pendant que la pauvre héritière pleurait ainsi, en compagnie de sa vieille servante, dans cette froide et obscure maison, qui pour elle composait tout l'univers, il n'était question, de Nantes à Orléans, que des 17 millions de mademoiselle Grandet. Un de ses premiers actes fut de donner 1 200 francs de rente viagère à Nanon, qui, possédant déjà 600 autres francs, devint un riche parti. En moins d'un mois, elle passa de l'état de fille à celui de femme sous la protection d'Antoine Cornoyer, qui fut nommé garde général des terres et propriétés de mademoiselle Grandet. Madame Cornoyer eut, sur ses contemporaines, un immense avantage. Quoiqu'elle eût 59 ans, elle ne paraissait pas en avoir plus de 40. Ses gros traits avaient résisté aux attaques du temps. Grâce au régime de sa vie monastique, elle narguait la vieillesse par un teint coloré, par une santé de fer. Peut-être n'avait-elle jamais été aussi bien qu'elle le fut au jour de son mariage. Elle eut les bénéfices de sa laideur et apparut grosse, grasse, forte, ayant sur sa figure indestructible un air de bonheur qui fit envier par quelques personnes le sort de Cornoyer. « Elle est bon teint, » disait le drapier.
« Elle est capable de faire des enfants, » dit le marchand de sel. « Elle s'est conservée comme dans de la saumure, sous votre respect. »«
Elle est riche, et le gars Cornoyer fait un bon coup, » disait un autre voisin. En sortant du vieux logis, Nanon, qui était aimée de tout le voisinage, ne reçut que des compliments en descendant la rue tortueuse pour se rendre à la paroisse. Pour présent de noces, Eugénie lui donna 3 douzaines de couverts. Cornoyer, surpris d'une telle magnificence, parlait de sa maîtresse les larmes aux yeux. Il se serait fait hacher pour elle. Devenue la femme de confiance d'Eugénie, Madame Cornoyer eut désormais un bonheur égal pour elle à celui de posséder un mari. Elle avait enfin une dépense à ouvrir, à fermer, des provisions à donner le matin, comme faisait son défunt maître. Puis elle eut à régir 2 domestiques, une cuisinière et une femme de chambre, chargée de raccommoder le linge de maison, de faire les robes de mademoiselle. Cornoyer cumula les fonctions de garde et de régisseur. Il est inutile de dire que la cuisinière et la femme de chambre, choisies par Nanon, étaient de véritables perles. Mademoiselle Grandet eut ainsi 4 serviteurs, dont le dévouement était sans bornes. Les fermiers ne s'aperçurent donc pas de la mort du bonhomme, tant il avait sévèrement établi les usages et coutumes de son administration, qui fut soigneusement continuée par Monsieur et Madame Cornoyer. À 30 ans, Eugénie ne connaissait encore aucune des félicités de la vie. Sa pâle et triste enfance s'était écoulée auprès d'une mère dont le cœur méconnu, froissé, avait toujours souffert. En quittant avec joie l'existence, cette mère plaignait sa fille d'avoir à vivre et lui laissa dans l'âme de légers remords et d'éternels regrets. Le premier, le seul amour d'Eugénie, était pour elle un principe de mélancolie. Après avoir entrevu son amant pendant quelques jours, elle lui avait donné son cœur entre 2 baisers furtivement acceptés et reçus. Puis, il était parti, mettant tout un monde entre elle et lui. Cet amour, maudit par son père, lui avait presque coûté sa mère et ne lui causait que des douleurs mêlées de frêles espérances. Ainsi, jusqu'alors, elle s'était élancée vers le bonheur en perdant ses forces, sans les échanger. Dans la vie morale, aussi bien que dans la vie physique, il existe une aspiration et une respiration. L'âme a besoin d'absorber les sentiments d'une autre âme, de se les assimiler pour les lui restituer plus riches. Sans ce beau phénomène humain, point de vie au cœur. L'air lui manque alors, il souffre et dépérit. Eugénie commençait à souffrir. Pour elle, la fortune n'était ni un pouvoir ni une consolation. Elle ne pouvait exister que par l'amour, par la religion, par sa foi dans l'avenir.
L'amour lui expliquait l'éternité. Son cœur et l'évangile lui signalaient deux mondes à attendre. Elle se plongeait nuit et jour au sein de deux pensées infinies, qui pour elle peut-être n'en faisaient qu'une seule. Elle se retirait en elle-même, aimant et se croyant aimée. Depuis 7 ans, sa passion avait tout envahi. Ses trésors n'étaient pas les millions dont les revenus s'entassaient, mais le coffret de Charles, mais les 2 portraits suspendus à son lit, mais les bijoux rachetés à son père, étalés orgueilleusement sur une couche de ouate dans un tiroir du bahut, mais le dé de sa tante duquel s'était servi sa mère, et que tous les jours elle prenait religieusement pour travailler à une broderie, ouvrage de Pénélope, entrepris seulement pour mettre à son doigt cet or plein de souvenirs. Il ne paraissait pas vraisemblable que Mademoiselle Grandet voulût se marier durant son deuil. Sa piété vraie était connue. Aussi, la famille Cruchot, dont la politique était sagement dirigée par le vieil abbé, se contenta-t-elle de cerner l'héritière en l'entourant des soins les plus affectueux. Chez elle, tous les soirs, la salle se remplissait d'une société composée des plus chauds et des plus dévoués cruchotins du pays, qui s'efforçaient de chanter les louanges de la maîtresse du logis sur tous les tons. Elle avait le médecin ordinaire de sa chambre, son grand aumônier, son chambellan, sa première dame d'atour, son premier ministre, son chancelier surtout, un chancelier qui voulait lui tout dire. L'héritière eût-elle désiré un porte-queue, on lui en aurait trouvé un. C'était une reine, et la plus habilement adulée de toutes les reines. La flatterie n'émane jamais des grandes âmes. Elle est l'apanage des petits esprits qui réussissent à se rapetisser encore pour mieux rentrer dans la sphère vitale de la personne autour de laquelle ils gravitent. La flatterie sous-entend un intérêt. Aussi, les personnes qui venaient meubler tous les soirs la salle de Mademoiselle Grandet, nommée par elle Mademoiselle de Froidfond, réussissaient-elles merveilleusement à l'accabler de louanges. Ce concert d'éloges nouveau pour Eugénie la fit d'abord rougir. Mais insensiblement, et quelque grossiers que fussent les compliments, son oreille s'accoutuma si bien à entendre vanter sa beauté que si quelque nouveau venu lui trouvait laide, ce reproche lui aurait été beaucoup plus sensible alors que 8 ans auparavant. Puis, elle finit par aimer des douceurs qu'elle mettait secrètement aux pieds de son idole. Elle s'habitua donc par degrés à se laisser traiter en souveraine et à voir sa cour pleine tous les soirs. Monsieur le président de Bonfons était le héros de ce petit cercle, où son esprit, sa personne, son instruction, son amabilité sans cesse étaient vantés. L'un faisait observer que depuis 7 ans, il avait beaucoup augmenté sa fortune, que Bonfons valait au moins 10 000 francs de rente et se trouvait enclavé, comme tous les biens des Cruchot, dans les vastes domaines de l'héritière. « Savez-vous, mademoiselle, disait un habitué, que les Cruchot ont à eux 40 000 livres de rente ?»« Et leurs économies, reprenait une vieille cruchotine, mademoiselle de Cribeaucourt. » Un monsieur de Paris est venu dernièrement offrir à monsieur Cruchot 200 000 francs de son étude. Il doit la vendre s'il peut être nommé juge de paix. Il veut succéder à monsieur de Bonfons dans la présidence du tribunal et prend ses précautions, répondit madame d'Orsonval. Car monsieur le président deviendra conseiller, puis président à la cour. Il a trop de moyens pour ne pas arriver. Oui, c'est un homme bien distingué, disait un autre. « Ne trouvez-vous pas, mademoiselle ?» Monsieur le président avait tâché de se mettre en harmonie avec le rôle qu'il voulait jouer. Malgré ses 40 ans, malgré sa figure brune et rébarbative, flétrie comme le sont presque toutes les physionomies judiciaires, il se mettait en jeune homme, badinait avec un jonc, ne prenait point de tabac chez mademoiselle de Froidfond, y arrivait toujours en cravate blanche, et en chemise, dont le jabot à gros plis lui donnait un air de famille avec les individus du genre dindon. Il parlait familièrement à la belle héritière et lui disait « Notre chère Eugénie ». Enfin, hormis le nombre des personnages, en remplaçant le loto par le whist et en supprimant les figures de monsieur et de madame Grandet, la scène par laquelle commence cette histoire était à peu près la même que par le passé. La meute poursuivait toujours Eugénie et ses millions. Mais la meute plus nombreuse aboyait mieux et cernait sa proie avec ensemble. Si Charles fut arrivé du fond des Indes, il eut donc retrouvé les mêmes personnages et les mêmes intérêts. Madame des Grassins, pour laquelle Eugénie était parfaite de grâce et de bonté, persistait à tourmenter les Cruchot. Mais alors, comme autrefois, la figure d'Eugénie eut dominé le tableau. Comme autrefois, Charles eut encore été là, le souverain. Néanmoins, il y avait un progrès. Le bouquet, présenté jadis à Eugénie au jour de sa fête par le président, était devenu périodique. Tous les soirs, il apportait à la riche héritière un gros et magnifique bouquet que Madame Cornoyer mettait ostensiblement dans un bocal et jetait secrètement dans un coin de la cour aussitôt les visiteurs partis. Au commencement du printemps, Madame des Grassins essaya de troubler le bonheur des Cruchotins en parlant à Eugénie du marquis de Froidfond, dont la maison ruinée pouvait se relever si l'héritière voulait lui rendre sa terre par un contrat de mariage. Madame des Grassins faisait sonner haut la pairie, le titre de marquise, et prenant le sourire de dédain d'Eugénie pour une approbation, elle allait disant que le mariage de monsieur le président Cruchot n'était pas aussi avancé qu'on le croyait. « Quoique monsieur de Froidfond ait 50 ans, disait-elle, il ne paraît pas plus âgé que ne l'est monsieur Cruchot. Il est veuf, il a des enfants, c'est vrai, mais il est marquis, il sera pair de France, et par le temps qui court, trouvez donc des mariages de cet acabit. Je sais, de science certaine, que le père Grandet, en réunissant tous ses biens à la terre de Froidfond, avait l'intention de s'enter sur les Froidfond. Il me l'a souvent dit, il était malin, le bonhomme. « Comment, Nanon ?» dit un soir Eugénie en se couchant. « Il ne m'écrira pas une fois en 7 ans. »